Bonjour à tous, rebonjour. Je suis très honoré d'être aujourd'hui parmi vous et je suis très soulagé que le temps s'est calmé, donc ça coïncide bien. Et avant de commencer, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore parce que c'est un privilège que nous avons de nous tenir devant toi. Et c'est aussi un privilège pour moi de me tenir devant cette assemblée, Seigneur, pour apporter ce message. Et je te prie, Seigneur, pour que tu puisses me donner l'intelligence, la sagesse et le discernement aussi, Seigneur, pour retranscrire ce que tu m'as mis à cœur et aussi surtout ce que dit ta parole, en fait. Seigneur, que tu puisses m'utiliser comme un serviteur utile et agréable pour toi. Et aussi que chacun d'entre nous on puisse repartir de... cet après-midi, en ayant, en étant vraiment transformé, en étant différent, parce que ta parole continue de nous transformer, parce que ta parole continue de nous faire grandir à ton image. Et je te prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais faire un petit test. Ok, c'est bon, ça marche. Ok, alors en fait, il y a quelque chose qui revient souvent quand on fait des moments de partage, qu'on soit en groupe de maison, que je sois avec des frères. Il y a un sujet de prière qui revient assez souvent, et le sujet de prière, c'est la gestion du temps. Voilà. Souvent, les personnes qui partagent font « Ah ouais, ben, moi j'ai un problème, c'est la gestion du temps, j'arrive pas à m'organiser, etc. » Et peut-être il y a certaines personnes parmi vous qui se reconnaissent dans ça, en tout cas moi le premier. Et en fait, des fois, il y a des personnes qui réagissent en disant « Bah ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il me manque du temps pour faire ça, il me manque du temps pour faire ça. » Mais en fait, permettez-moi de vous dire que c'est faux, en fait. Parce que dans sa souveraineté, Dieu nous a donné suffisamment de temps à vivre aujourd'hui, dans notre vie, pour faire ce qu'il veut que nous fassions sur cette terre. Et de la même façon, cette vision macro de toute notre vie, parce que peut-être je vais vivre 28 ans, peut-être je vais vivre 50 ans, on ne sait pas. Et également, il a donné assez de temps dans une journée pour que nous puissions faire ce qu'il veut que nous fassions pour lui. Et donc, on sait en théorie que nous avons assez de temps pour faire cela. Mais Paul, il va plus loin. Il ne parle pas juste de gérer le temps, il parle carrément de racheter le temps. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons justement racheter le temps. Donc, un petit flashback aussi sur la lettre aux Éphésiens. Vous savez que pendant un certain temps, on a étudié ce livre pendant plusieurs mois. Et j'ai juste rappelé où se trouve Éphèse. Éphèse se situe en Turquie actuelle. Et Paul a écrit cette lettre à l'attention de l'église de Éphèse, alors qu'à ce moment-là, Paul était en prison à Rome. Il a écrit cette lettre en 60 à 62 après Jésus-Christ. Cette lettre, elle est découpée en deux parties. Une partie d'abord théologique, chapitre 1 à chapitre 3, et une partie plutôt mise en pratique, chapitre 4 au chapitre 6. J'ai structuré ce passage en deux parties. Le premier passage, nous allons voir d'abord que nous sommes des enfants de lumière, verset 6 au verset 14, et enfin nous allons voir que nous pouvons racheter le temps. Et par rapport au fait que nous sommes des enfants de lumière, il faut savoir que nous sommes tous nés dans les ténèbres. C'est un fait. Au moment où nous sommes nés, nous étions tous nés dans les ténèbres. Et je vais prendre Éphésiens 2, versets 1 à 3, et je vous invite à lire ensemble. 1, 2, 3. « Quant à vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. » Et voici dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous pécheurs, nous étions tous nés dans les ténèbres, et depuis Adam jusqu'à maintenant, au fur et à mesure que, de génération en génération, malheureusement, le péché s'est transmis. Deuxième chose qu'on peut voir, c'est que nous avons été justifiés, et sanctifiés. Lorsque nous tournons vers Dieu, à la conversion, nous sommes justifiés. Dieu nous considère comme justes devant lui. Et ça, c'est grâce au fait que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. C'est ce qu'on appelle la justification, qui est un acte ponctuel. Ensuite, en même temps, en fait, se passe ce qu'on appelle la sanctification, qui est un process progressif qui commence à partir du moment où on se convertit et qui sera jusqu'à la fin de notre vie sur Terre, pendant lequel on va combattre. En fait, on va combattre, on va grandir et de plus en plus à la ressemblance de Christ. Et ce schéma, état, œuvre, c'est avant la conversion, on n'était pas converti, on était dans les ténèbres, on était dans la chair, et du coup, forcément, on va faire des œuvres de la chair. Et maintenant que nous avons Christ en nous, maintenant que nous avons l'Esprit Saint, après la conversion, nous pouvons soit faire des œuvres de l'Esprit, mais nous pouvons aussi faire des œuvres de la chair. Une autre chose aussi, au verset 6, Paul appelle les Éphésiens à ne pas se laisser tromper par des paroles sans fondement, en gros, ne pas se faire influencer. Et il dit que c'est parce que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. La colère de Dieu est déjà sur tous les hommes de manière générale, parce que les hommes sont séparés de Dieu, parce que les hommes sont pécheurs. Et quand Paul dit ça, en fait, il parle du fait que la colère de Dieu, elle demeure encore sur les hommes qui ne le connaissent pas, sur les non-chrétiens, parce qu'ils sont encore spirituellement morts, c'est-à-dire qu'ils sont encore séparés de Dieu à cause de leur péché. Et le fondement des non-chrétiens n'est pas Christ, en fait, il vient de Satan. Et les Éphésiens couraient le risque de se laisser influencer par ceux qui, justement, n'étaient pas chrétiens, qui sont appelés ténèbres dans ce texte. Et du coup, ils risquaient non seulement d'être influencés, mais pire, ils risquaient même de retourner dans les ténèbres. Et du coup, Paul, ici, il essaye d'insister sur le fait qu'il ne faut pas fréquenter des non-chrétiens ou fréquenter des ténèbres au point de devenir nous-mêmes ténèbres et de retourner dans les ténèbres. Et peut-être une question un peu d'application pour nous, c'est est-ce qu'il y a une situation que tu es en train de vivre ou que tu as vécu où tu te sens que tu es influencé par la manière de penser ou par la manière de vivre de tes amis, de tes collègues, de ta famille, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, ou ils t'influencent bien davantage que toi tu ne les influences? Bien sûr, nous sommes appelés à être des lumières dans les ténèbres, bien sûr, mais est-ce que finalement le fait que tu sois avec ces personnes-là, que tu es beaucoup avec elles, est-ce que finalement c'est pas elles qui t'influencent puisque toi tu les influences? Je prends un exemple, au boulot, moi ça m'arrive d'être avec des collègues qui, des fois ils commencent à être négatifs, je sais pas si ça vous arrive, en tout cas ils parlent en mal, disent oh ouais, de toute façon ça va pas bien, franchement le patron, voilà, et du coup, moi je suis là pendant 8 heures, j'entends que ça, et du coup je rentre chez moi, je me dis purée, c'est vrai que le patron quand même il n'est pas... Et en fait, je me suis laissé influencer. C'est bête, mais plus on passe du temps avec des personnes, plus on se laisse influencer par ces personnes. Et si on n'est pas stable, si on n'est pas attaché au rocher solide qui est Christ. Et si c'est le cas, c'est que ça t'arrive et que ça arrive aussi à moi, je t'invite à fuir la compagnie des moqueurs, comme le dit le verset juste après, le verset 7 qui dit « N'ayez donc aucune part avec eux ». Verset 7, « N'ayez donc aucune part avec eux ». Et je vous invite aussi à prendre, c'est pas écrit, mais 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 17. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière, et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc nous ne devons pas nous laisser influencer par les autres. Paul rappelle aussi dans ce texte que nous sommes passés d'un état de ténèbres à un état de lumière. Tu peux passer, s'il te plaît. Au verset 8, Paul rappelle que les chrétiens étaient autrefois ténèbres, mais que maintenant ils sont lumière. Et il y a un autre parallèle, en fait, c'est que dans Jean chapitre 8, verset 12, on voit que Jésus est la lumière du monde. Il dit « Je suis la lumière du monde », Jean chapitre 8, verset 12. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et donc on sait que les chrétiens sont appelés lumière, que Christ est appelé la lumière du monde. Et encore plus fort, dans Matthieu 5, verset 14, Jésus dit directement à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Et il rappelle qu'ils ne doivent pas cacher la lumière. Et je crois que c'est vraiment une expression qui est très très forte. On peut dire « Vous êtes dans la lumière. » Ça supposerait que finalement on pourrait sortir de la lumière. Mais le fait de dire « Vous êtes la lumière », c'est que vous éclairez vous-même, vous brillez, vous êtes vous-même la lumière. Et ça, ce n'est pas par nos propres capacités, c'est parce que l'Esprit Saint vit en nous et qu'il agit à travers nous. Et nous ne pouvons donc pas être juste des chrétiens de temps en temps. « Ah, je suis dans la lumière, ah, je ne suis pas dans la lumière, ah, je suis dans la lumière, ah, je ne suis pas dans la lumière. » Mais nous devons être des chrétiens permanents, de manière permanente, parce que le Saint-Esprit réside en nous de manière permanente. Éphésiens 4, verset 30 nous dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Enfin, dernière chose que Paul nous apprend dans cette première partie, c'est que, Denis, s'il te plaît, c'est que nous devons avoir une conduite d'enfant de lumière. Toujours au verset 8, Paul explique que nous devons nous conduire comme des enfants de lumière. Tout comme notre Père est lumière, nous aussi, comme on est des lumières, on doit se comporter du coup en étant comme des enfants de lumière. Et comment est-ce qu'on peut voir ça? On peut voir ça à travers le fruit que l'on va apporter. Dans ce passage, on dit que le fruit de l'Esprit, c'est la bonté, la justice, la vérité. Et dans Galates 5, verset 22, on dit que le fruit de l'Esprit, c'est pour compléter, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et donc, nous devons porter du fruit, nous ne devons pas nous associer aux ténèbres. Et Paul nous dit ne pas participer aux œuvres stériles des ténèbres. Et dans le dictionnaire, en fait, stérile, le mot stérile, ça veut dire qu'il ne produit rien de lui-même. En gros, les ténèbres ne peuvent pas porter de bons fruits. De la même façon que c'est logique, faut dire un arbre, seul un bon arbre peut porter de bons fruits, seul un pommier peut porter des pommes. Et finalement, il y a un gros parallèle en fait, qui est fait entre les ténèbres qui représentent la chair et d'un autre côté la lumière qui représente l'Esprit Saint, l'Esprit. Et on peut voir ça aussi dans Galates 5, versets 16 à 18. Je vous invite à lire avec moi. 1, 2, 3. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine... En fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le processus de la sanctification, le fait de combattre par l'esprit alors que nous avons encore ce corps de chair dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ça appelle à avoir ça appelle aussi à faire attention donc, aux mauvaises fréquentations qui risquent de nous impacter beaucoup plus que ce que nous croyons. C'est vraiment la lumière, comme j'ai déjà dit, qui doit éclairer les ténèbres et pas les ténèbres qui doivent étouffer la lumière. Et du coup, ça appelle à faire des actions précises. Denis, s'il te plaît. Ces actions précises, c'est discerner ce qui est agréable au Seigneur. Et comment est-ce qu'on peut savoir ce qui est agréable à Dieu? Eh bien, c'est à travers le fait d'être connecté à Dieu par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vit en nous. C'est aussi à travers la lecture de sa parole. Et nous sommes aussi appelés à démasquer les œuvres des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est appeler le péché par son nom. Et s'il est implicite dans une situation, il ne faut pas hésiter à le dénoncer. Et, alors, par exemple... Je pense que ça nous arrive à tous d'aller au cinéma, de regarder des films, de regarder des séries, de regarder des clips. Et en fait, à chaque fois qu'on va voir un divertissement, à chaque fois, il y a une façon de représenter le monde qui est dans ce média, en fait. Et quand on regarde, par exemple, certaines publicités ou certains films, bah, ça peut être, par exemple, le matérialisme. Le matérialisme, c'est, en fait, quelque part, c'est comme une idole qui place notre plaisir et notre désir dans des choses matérielles pour qu'on croie que, ah, si j'ai ça... je serai plus heureux. Alors si ce personnage-là, il est heureux parce qu'il a ça, bah, moi aussi, je vais essayer d'avoir ça. Alors qu'en fait, c'est de la comédie, c'est du cinéma quelque part. Et malheureusement, beaucoup de personnes autour de nous que nous connaissons mettent leur valeur dans ce qu'ils ont, de ce qu'ils possèdent, et non pas dans ce qu'ils sont en Christ. Et une autre idole aussi, c'est l'humanisme. C'est une idole qui place l'homme comme étant la solution à tous les problèmes. Cependant, bah, l'homme, il est pécheur, il ne pourra pas régler la solution à tous les problèmes, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et ça, c'est par exemple tous les films aujourd'hui que vous voyez comme Batman vs Superman ou Captain America 3, Civil War. Bah, franchement, c'est génial. Moi, j'adore ces films, mais c'est clair que voilà, la solution, ça va être tel super-héros, et puis ils ne sont pas toujours très, très bons, hein, parce qu'on a vu... j'en parle un peu plus pour ceux qui n'ont pas vu les films, mais... Et d'en démasquer aussi les œuvres des ténèbres, malheureusement, je pense que des fois, on voit des frères et sœurs qui encouragent leurs amis à franchir aussi la barrière du péché. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, qu'est-ce qui a vu la résurrection du Christ ? Vous pouvez juste lever la main, pour ceux qui l'ont vu. Ok. En fait, ce film, il est vraiment génial parce qu'il est très fidèle au texte, aux Écritures. Et nous, avec Tatiana, on vient de le voir hier. Et en fait, sur Facebook, moi, j'ai eu des amis chrétiens qui ont dit « Ah, franchement, on vous invite trop à aller voir ce film. » Ils ont mis un lien vidéo vers un site de streaming. Et en fait, je me suis renseigné, ce site n'est pas du tout légal. Voilà. Et du coup, je veux dire, quand on voit ça, ben, c'est dans les 10 commandements, quoi. Tu ne vas pas voler parce que non, tu es censé payer pour regarder ça. Et voilà, donc du coup, là, il faut que je leur parle pour leur dire, bah, franchement, c'est pas correct, en fait, tu te rends pas compte. Parce que du coup, ils essaient d'évangéliser en disant, bah, vas-y, regarde ça, c'est un streaming. Donc c'est, je sais pas, enfin, c'est vraiment, ne rien faire, quelque part, c'est cautionner, en fait. Donc voilà, c'est démasquer les œuvres des ténèbres. C'est très subtil, mais je crois vraiment que c'est important. Et enfin, troisième chose qu'on voit, c'est qu'on est appelé à se réveiller. Alors, on retrouve une expression dans ce texte qui est « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » En fait, ce passage, il montre que Christ, c'est la lumière, c'est que Christ seul peut nous réveiller, qui peut éclairer, qui peut briller, nous réveiller. Et comment est-ce que ça peut se faire ? En fait, c'est Jésus qui, à travers son Saint-Esprit, va nous convaincre de péché, qui va nous amener à la repentance, nous attirer à lui. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement la conversion. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, c'est la conversion. Et par rapport aux personnes qui sont ici présentes, qui sont converties, qui sont chrétiens, et ben, Christ nous a réveillés, il nous a littéralement relevés d'entre les morts, de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Il nous a fait naître de nouveau, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est l'image qui est montrée à travers le baptême. Et peut-être que certains d'entre vous, ici, n'ont pas encore été réveillés. Je ne parle pas maintenant, j'espère qu'il n'y a personne qui dort. Mais personne ici n'a été... Peut-être qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore été relevées d'entre les morts. Et en fait, vous ne pouvez pas vraiment vous relever vous-même d'entre les morts. Il faut que vous laissiez le Saint-Esprit de Dieu le faire, parce que c'est lui qui va le faire en vous. Et plus vous allez comprendre le message de la Bible, de la parole de Dieu, plus celle-ci va vous toucher et vous transformer, à vous montrer à quel point vous êtes pécheur, à quel point vous avez besoin de Dieu, et à quel point vous avez besoin de changer. Et ça va être jusqu'à ce qu'un jour, vous allez vous tourner vers Dieu en lui disant « Prends ma vie, Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, car je vais t'obéir, et Sauveur, car tu m'as sauvé par ta mort sur la croix. » Donc voilà, s'il y a une personne ici qui se pose des questions, n'hésite pas à la fin du culte à venir voir les diacres, à venir voir le pasteur Nguyen, et on pourra parler ensemble, partager ensemble et prier pour toi. Et enfin, j'ai fait une synthèse aussi, par rapport à cette première partie du message où on voit vraiment un contraste que Paul dresse entre ben, d'un côté les non-chrétiens et d'un côté les chrétiens. Si Denis, tu peux, merci. On voit que le non-chrétien, c'est un peu un rappel, il est sous la colère de Dieu, il est rebelle, le chrétien n'est plus sous la colère de Dieu parce que Christ a porté toute la colère de Dieu le Père à la croix. Le non-chrétien est spirituellement mort, le chrétien est né de nouveau, le non-chrétien n'a pas le Saint-Esprit, le chrétien a le Saint-Esprit, le non-chrétien est dans la chair, le chrétien est dans l'esprit, le non-chrétien marche par la chair, le chrétien peut marcher par l'esprit, mais peut aussi encore faire des œuvres de la chair. Le non-chrétien est ténèbre, mais le chrétien est lumière, le non-chrétien est appelé stupide ici, le chrétien est sage, le non-chrétien est à Satan et le chrétien est à Christ. Et le fruit que porte le non-chrétien, c'est la méchanceté, l'injustice et le mensonge. Je n'ai pas développé dans ce passage, mais c'est ce qu'il y a écrit dans ces versets. Et le chrétien est appelé à porter du fruit qui est la bonté, la justice et la vérité. Voilà pour cette première partie. Nous avons vu d'abord que nous sommes des enfants de lumière. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît ? Nous avons vu que Nous étions des enfants de lumière parce que Christ lui-même était lumière. Et Christ, notre héros, a vaincu ces ténèbres pour que nous puissions être sortis des ténèbres, pour que nous puissions briller aujourd'hui là où nous sommes. Et la question que je nous pose, c'est est-ce que nous sommes des lumières qui éclairent le monde véritablement là où nous sommes? Ou est-ce que, au contraire, on ne fait pas de distinction entre les non-chrétiens et nous-mêmes? Alors nous allons voir trois choses. C'est d'abord que les jours sont mauvais. Et cette expression, on la voit au verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et peut-être vous voyez une petite référence dans vos Bibles qui fait, en fait, qui rappelle Amos chapitre 5 verset 13. Et je vous invite à lire ensemble Amos chapitre 5 verset 10 à 13 qui est sur l'écran. 1, 2, 3. Il déteste celui qui les... Donc là, Amos, c'était un prophète de Juda, donc le royaume du sud, qui en 760 avant Jésus-Christ a été envoyé prêcher au royaume du nord pour prophétiser, en fait, c'est-à-dire parler de la part de Dieu. Et à l'époque, le peuple d'Israël, donc le royaume du nord, était arrogant et n'était pas fidèle à Dieu, était arrogant et opprimait les pauvres jusqu'à les réduire en esclavage. Et dans Amos, chapitre 5, verset 13, on voit que les crimes sont nombreux, que les péchés se sont multipliés, que le juste est opprimé, que les méchants reçoivent des pots de vin et violent les droits des pauvres aux portes de la ville. Et conséquence, en fait, le sacheté, car les jours sont mauvais. En fait, ces jours sont mauvais parce que les hommes qui vivaient en ce temps-là étaient mauvais. Mais posons-nous cette question aujourd'hui. Est-ce que ça a changé ? Aujourd'hui, est-ce que nous voyons partout l'égalité dans le monde? Est-ce qu'aujourd'hui nous voyons cette égalité en France? Est-ce qu'il y a encore des crimes? Est-ce que les péchés se sont multipliés? Est-ce que les chrétiens sont-ils bien vus ou mal accueillis? Est-ce que les puissants de ce monde reçoivent encore des pots de vin? Est-ce que les pauvres sont encore laissés de côté? Oui. Je crois que ces versets qui étaient dans cette prophétie d'Amos, en 760 avant Jésus-Christ, je pense qu'ils sont encore d'actualité, 2776 ans plus tard. Et nous sommes appelés à faire quelque chose. Parce que ces jours sont mauvais, nous sommes appelés à racheter le temps. Racheter le temps. Et pour moi, tu peux passer s'il te plaît, Denis. Pour moi, il y a deux sens possibles pour racheter le temps. Racheter le temps, ça peut par exemple signifier gérer son temps au mieux pour la gloire de Dieu par rapport au temps qui nous est imparti sur cette terre. Parce qu'en soi, on ne peut pas vraiment ajouter du temps à notre vie. Aucun d'entre nous peut ajouter du temps à notre vie. Mais cependant, nous pouvons ajouter de la valeur à ce que nous faisons. Nous pouvons ajouter du sens à ce que nous faisons. Et par ce biais, en fait, nous pouvons racheter le temps. C'est en fait le fait d'avoir un sentiment d'urgence par rapport à ce qui se passe dans le monde, face à la présence du mal dans le monde et face au nombre énorme d'âmes perdues dans le monde, le fait de vouloir être dans cette mission que Dieu nous a confiée, se racheter le temps, se saisir vraiment du temps qu'il nous a imparti pour servir le Seigneur. Et un autre sens que je considère aussi qui est possible, c'est de dire que racheter le temps, ça évoque le cas de personnes qui, pendant très longtemps, ont été éloignés de Dieu, donc des personnes qui ne sont pas converties, ou des chrétiens qu'on appelle endormis. Encore une fois, j'espère que personne ne dort ici. Mais des chrétiens qui étaient endormis, qui se sont réveillés et qui se rendent compte que waouh, il y a vraiment un sentiment d'urgence, il faut vraiment que je me bouge, il faut que je sois une lumière. Ou ça peut être aussi s'agir de non-chrétiens qui se convertissent et qui se rendent compte de cette même urgence. Je pense que le texte parle plutôt du premier sens par rapport au contexte, parce qu'il parle des jours mauvais et dans lesquels nous sommes encore aujourd'hui. Mais je crois que le deuxième sens, finalement, est applicable. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez très bien la parabole du semeur. La parabole du semeur, il y a quatre terres. Il y a au bord du terrain, il y a les cailloux, il y a les ronces, il y a la bonne terre. Et soit on peut considérer que Ça représente différentes étapes de notre vie. Au début, j'étais au bord du chemin, et puis à un moment donné, j'étais dans les cailloux, puis après, j'étais dans les ronces, puis en ce moment, je suis dans les ronces, puis un jour, peut-être, je serai dans la bonne terre. Ou alors, on peut le comprendre comme étant la situation dans laquelle je suis, et comment est-ce que Dieu me voit. Et dans ce cas-là, si je suis converti, je suis forcément dans la bonne terre, et si je suis converti et que je suis dans la bonne terre, forcément, je vais porter du fruit. Voilà, c'est plusieurs interprétations qui peuvent être possibles, et ce qui est le cas, je pense, aussi ici. Ensuite, maintenant, nous allons voir cette dernière partie, je pense, qui est la plus pratique. Donc, si vous pouvez peut-être retenir ces quatre conseils, en fait, que nous allons voir ensemble, on va voir que nous devons... Comment est-ce qu'on peut racheter ce temps? Parce que Paul, il nous dit, ok, tu dis de racheter le temps, d'agir comme des lumières, mais comment? Et en fait, là, on va voir une liste de conseils pratiques qui vont être mis en œuvre. Et ces conseils, ils peuvent être mis en place seulement si on a le Saint-Esprit en nous, parce que c'est seulement le Saint-Esprit qui va pouvoir faire cette œuvre de transformation dans notre vie. Le conseil numéro 1, ayons une bonne conduite. L'auteur insiste sur notre conduite, notre comportement. Et ça rappelle aussi le verset 8 qu'on a vu tout à l'heure. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Tout comme le fou marche par la chair dans les ténèbres, le sage marche par l'esprit dans la lumière. Et du coup, ça serait impensable finalement qu'un sage agisse comme un fou. Et pourtant, je pense que des fois, nous agissons comme des fous. Et particulièrement, par exemple, les fois où nous agissons sans nous demander si cela va à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Peut-être nous avons notre culte personnel le matin, mais ça ne nous empêche pas finalement d'oublier Dieu durant toute la journée, de faire notre vie finalement comme si Dieu n'existait pas. Ou peut-être que, alors que nous savons que Dieu, en théorie, nous savons que Dieu est présent partout, qu'il voit tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, mais finalement nous ne nous rendons pas compte en fait. On se rend compte le matin, peut-être quand on demande notre culte perso, peut-être le soir quand on remercie Dieu avant de dormir, peut-être on va se rendre compte le dimanche parce qu'on va à l'église. Mais en fait, non, on est appelé à avoir ce comportement de sage qui compte sur le Seigneur tout au long de notre journée. Et peut-être aussi, des fois, nous agissons comme des non-chrétiens qui, du coup, ne voient pas la différence, ces non-chrétiens, entre nous-mêmes et eux, entre les ténèbres et la lumière. Et ça fait qu'on devient... Ça fait qu'on devient des contre-témoignages. Est-ce que tu peux avancer, Denis? Ça peut être toutes les fois où nous rigolons pour des blagues en dessous de la ceinture. Voilà, ça arrive au travail. Ça peut être toutes les fois où nous moquons des collègues parce que d'autres collègues disent « Ah, t'as vu, lui, il est comme ça, c'est trop marrant. » Et après, moi, je rigole. Et alors que, en fait, non, c'est pas sain, en fait. On voit pas la différence. Et je le regrette après. Et je suis obligé de demander pardon. Donc voilà, agissons comme... Agissons comme des lumières là où Dieu nous a placés. Et en gros, en fait, toutes les fois où nous ne mettons pas Dieu à la première place dans nos choix, dans nos activités, dans nos pensées, c'est des fois où nous agissons comme des fous et non pas comme des sages. Deuxième conseil, Denis, si tu peux passer. Nous sommes appelés à comprendre la volonté de Dieu. En fait, le fait d'agir comme quelqu'un de fou, ça suppose qu'en fait, on est nous-mêmes quelqu'un des fois de fou ou de stupide. Et Paul dit, ne soyez pas stupide. Et pour éviter justement ça, il nous appelle à comprendre la volonté de Dieu. Comprendre la volonté de Dieu. Dieu révèle sa volonté dans sa parole, et qui est la Bible, et qui comprend toutes les instructions qui sont nécessaires pour encadrer notre vie sur terre. Et il n'y a pas de secret finalement, en fait. Ça passe par le fait de consacrer du temps. Consacrer du temps à Dieu chaque jour et pas des miettes. Et très sincèrement, je pense, comme j'ai dit en introduction, je pense que nous n'avons pas vraiment d'excuses en fait. Dieu nous a laissé assez de temps pour faire ce que nous devons faire dans notre journée et dans notre vie sur cette terre. Et malheureusement, des fois, il nous arrive d'avoir des excuses. Et j'en ai trois par exemple. Ça peut être Ah, tu sais, Clément, je suis en couple ou je suis marié, donc j'ai pas le temps en fait. Tu vois, je le fais quand j'ai un petit peu de temps, mais tu vois, c'est compliqué, il faut gérer les sorties, etc. Mais en fait, Dieu nous a donné notre chair est tendre, Dieu, ou chair est tendre. C'est lui qui nous donne le souffle de vie à nous-mêmes ou à notre chair est tendre. Et à plus forte raison, est-ce que nous ne pouvons pas consacrer plus de temps à notre Créateur, qui est notre Père, qui est dans le ciel, qui nous a créés et qui nous a permis d'avoir cette bénédiction d'être en couple ou d'être marié? Et en allant plus loin, Par exemple, ça peut être une autre excuse, c'est « Ah, tu sais, j'ai des enfants, ça me prend trop de temps, du coup, j'ai pas trop de temps pour lire la Bible, etc. » Mais justement, Dieu nous bénit à travers les enfants. Dieu nous donne des enfants et c'est là pour nous bénir. Et les enfants, malheureusement, ils ne doivent pas prendre la place de Dieu. Et ça arrive des fois. Ça arrive des fois que les enfants deviennent idoles, que finalement, on consacre plus de temps, qu'on place l'enfant comme étant au-dessus de Dieu. Pas tellement on y pense, mais c'est à travers notre façon d'agir avec nos enfants. Et Dieu doit avoir la première place. Et ce que j'ai dit par rapport à l'idole, ça peut être aussi par rapport au couple. Si on met notre mari ou notre femme à la première place, au-dessus de Dieu, et ça devient dangereux. Une autre troisième excuse, qui peut concerner tout le monde ici, je pense, « Ah, tu sais, je fais un travail qui me prend trop de temps, et quand je rentre, je suis très ou trop fatigué. » Alors, effectivement, nous faisons tous un travail différent ici. Certains sont encore en cours. Pour certains, c'est un travail qui est plus physique, qui du coup est fatigant. Pour d'autres, il est plus long. Peut-être, il y en a, ils commencent à 9h, ils rentrent à 3h du mat en taxi. Mais ça, voilà, c'est pas... c'est différent selon chacun. Mais, rappelons-nous que c'est Dieu. Rappelons-nous que c'est Dieu qui nous a donné cette opportunité de travailler, de subvenir à nos besoins. C'est Dieu qui nous donne cette opportunité. Dieu nous bénit à travers ce travail. Et quelque part, il mérite ce temps. Alors, ok, sur la théorie, je sais que je dois comprendre la volonté de Dieu, je sais que je dois consacrer du temps à Dieu, mais comment faire ? Comment faire ? En fait, il faut un plan, il faut réfléchir, il faut s'organiser. Ça, c'est pas du jour au lendemain, je me lève. Jusqu'à présent, je passais du temps plutôt avant de dormir, mais je m'endormais pendant que je priais. Et paf, je passe à une heure tous les matins à prier. Non. Alors, peut-être c'est possible, mais ça ne sera pas forcément tout de suite évident. Et peut-être pour commencer, vous pouvez commencer par un temps régulier, par exemple 10 minutes tous les matins. 10 minutes tous les matins. Et en fait, vous allez vous rendre compte, et ça, c'est avec des frères et sœurs, on s'en est rendu compte, plus on passe du temps avec le Seigneur de manière régulière, plus on ne se rend pas compte à quel point le temps passe vite et à quel point on a fait « Waouh, j'ai déjà passé tout ce temps-là. » Et en fait, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue. En mars 2016, j'étais un week-end avec ma promo du R2E. Le R2E, c'est la formation d'évangéliste que j'ai faite de 2012 à 2014. Et du coup, pendant ce week-end de retrouvailles qu'on a fait en mars, on fait les sujets de prière, voilà, on partage, etc. Et le sujet qui revenait, c'était l'intimité avec Dieu. On était tous des évangélistes actifs, proactifs, très très proactifs, plein d'activités, etc. Mais on se rendait compte qu'au fond de nous-mêmes, on n'était pas forcément connecté à fond avec Dieu. On n'était pas, on n'avait pas cette intimité, ce cœur à cœur avec Dieu. Et on savait la théorie, le temps avec Dieu avant le temps pour Dieu, mais on ne savait pas forcément le mettre en pratique. Et en fait, de retour de ce week-end, c'était en mars 2016, je me suis dit, mais je vais prendre cette résolution. Alors, je n'ai pas prise en janvier, je l'ai prise en mars, mais j'ai pris cette résolution de me lever 30 minutes plus tôt, chaque matin, pour être certain d'avoir vraiment ce temps. Parce que jusqu'à présent, j'étais en mode, je me lève, et puis je fais ce que j'ai à faire, et puis après, je reste le temps pour lire la Bible. Je suis, ah mince, il faut quand même que j'aille choper mon RER, et puis finalement, je le fais en 10 minutes, ou un quart d'heure, ou même 5 minutes quand je n'ai pas le temps. Et du coup, finalement, je suis en train de donner des miettes au Seigneur à ce moment-là. Et ce que j'ai fait, je me lève entre 6h30 et 7h15, ça dépend de... Donc du coup, je me suis programmé un réveil, et je prenais ma douche, j'étais réveillé, et là, je passais du temps avec Dieu. Et je me suis dit, il faut que je vise une demi-heure, mais je laissais de côté mon portable. Parce que je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, mon portable, si je me lève dès le matin, après, je peux flâner, regarder des sites, même des sites chrétiens, mais ce n'est pas le plus important. Et du coup, je laisse de côté mon portable, je prends ce temps avec Dieu pour mémoriser des versets, pour lire sa parole, pour méditer, pour prier. Et franchement, ces derniers temps, je me rends compte que, je regarde l'heure. Ah mince, je pensais avoir passé 20 minutes, j'ai passé 40 à 50 minutes, et c'est gloire à Dieu en fait, parce que je sais que si moi à l'avance je me dis, je regarde l'heure à chaque fois, j'arriverai pas en fait, mais quand on passe du temps avec le Seigneur, ce temps est tellement précieux, et vraiment j'ai cette intime conviction que quand on passe ce temps avec le Seigneur, tous les matins, la journée qui s'ensuit va être bénie, vraiment c'est, je ne peux pas expliquer, des fois il m'arrive quand même des soucis, mais c'est tellement relatif par rapport à tout ce que ces promesses dont on s'est saisi le matin, où Dieu renouvelle ses promesses et ses bénédictions chaque jour. Et quand ça se passe dans notre vie, on se rend. En fait, je me dis waouh, je ne me rends pas compte, mais je suis tellement béni en fait. ne veux pas dire que Dieu bénit plus parce qu'on passe du temps, ce n'est pas conditionnel, mais je me rends peut-être plus compte des bénédictions de Dieu dans ma vie parce que je suis plus ouvert à sa présence. Voilà. Et Paul, finalement, il avait compris cette urgence de mettre Dieu à la première place, quelle que soit notre condition, marié, pas marié. Et là, je vous invite à prendre 1 Corinthiens 7, versets 29 à 31. 1 Corinthiens 7, versets 29 à 31. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Deuxième conseil, c'était comprendre la volonté de Dieu et passer ce temps à essayer de comprendre sa volonté tous les jours. Tu peux passer, s'il te plaît, Denis. Troisième conseil, ne perdons pas notre contrôle. Paul dit de ne pas s'enivrer de vin, parce que s'enivrer de vin, ça mène à la débauche. Effectivement, le fait de consommer de manière excessive du vin, ça peut mener à un état d'ébriété et qui, a fortiori, peut conduire à de la débauche, à de l'immoralité sexuelle. Et bien sûr, on voit dans le monde que c'est présent, malheureusement. Mais je pense qu'il n'y a vraiment pas cette place dans un monde de lumière dans lequel nous sommes avec Christ. Et dans ce passage, de manière pratique, on voit que cet enivrement, il mène à la débauche. Mais je pense que de manière générale, il faut que chacun en puisse se sonder pour savoir ce qui risque finalement de nous mener à la débauche. Et pas forcément le vin, peut-être pour d'autres personnes, ça va être des séries, ça peut être la pornographie, etc. Et finalement, c'est quelles sont les choses qui peuvent nous amener à perdre le contrôle et justement être vigilant. Parce que je pense que c'est surtout un manque de vigilance, on ne se met pas forcément des barrières, on ne se met pas forcément de redevabilité, on ne passe pas forcément des temps avec des frères et sœurs pour s'encourager. Et voilà, restons vigilants, gardons les pieds fermes par rapport à ce que dit la parole. Quatrième conseil, s'il te plaît Denis, nous sommes appelés à être continuellement remplis de l'Esprit. Être remplis de l'Esprit. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est développé juste après dans les versets suivants. Et on va voir trois choses. On va voir que la louange nous aide à être remplis de l'Esprit. On va voir que la reconnaissance nous aide à être remplis de l'Esprit. Et on va voir que la soumission mutuelle, l'un à l'autre, nous aide à être remplis de l'Esprit. La louange nous aide à être remplis de l'Esprit. Paul nous appelle à se dire des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, à chanter, célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur. C'est par exemple ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, on a chanté des versets, on a chanté la parole de Dieu, « Bénis éternel, ô mon âme », psaume 103. C'est ça, c'est céder de la parole de Dieu pour adorer Dieu. Et lorsque nous chantons aussi et que nous célébrons Dieu, nous ne le faisons pas parce que le meneur de louanges dit « Ah, vous allez chanter avec moi, on va chanter ça trois fois, etc. » On le fait parce qu'on croit à ce qui est écrit dans ces textes, dans ces paroles. On croit ce qu'on chante, sinon on serait un peu hypocrite. Oui, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Oui, bon, juste aujourd'hui, hein, parce que lundi, mardi, retour à la vie. Non, c'est vraiment, je pense, quand on chante avec notre cœur de manière authentique et de manière sincère. On est appelé à vraiment vivre ce que nous chantons et à chanter ce que nous vivons, en fait. Et la reconnaissance, la prière de reconnaissance nous aide aussi à être remplis de l'Esprit. Et Paul nous appelle à remercier constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le tout, ça comprend les épreuves, les imprévus, aussi bien que les bénédictions et les joies que nous avons. Et je pense qu'on est vraiment appelé à remercier Dieu pour la force qu'il développe en nous, le caractère qu'il développe en nous à travers les épreuves. Et ce matin, je lisais une méditation de Oswald Chambers qui disait que à travers finalement les épreuves, ça nous aide à voir si, à travers cette épreuve, est-ce que je vais me rapprocher de Dieu, je vais en profiter pour être justement encore plus accroché à Dieu, encore plus grandir à son image, à l'image de Christ, ou est-ce que, au contraire, je vais être encore plus indépendant, je vais vivre ma vie encore plus de côté, sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Voilà. Et quel est le but final, finalement, de ces épreuves? C'est de nous rendre encore plus semblables à Christ, de nous rendre encore plus participant à la gloire de Dieu, encore plus unis à Dieu. Et dans Jean 17, justement, Jésus disait lui-même que Le but, c'est que tout soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Comme je suis en toi et toi, tu es en moi, et que nous sommes un ensemble. Et ça me rappelle aussi le Romains 8, verset 28, le verset Romains 8, verset 28, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, les bonnes comme les mauvaises. Et nous pouvons aussi remercier Dieu pour qui il est, tout simplement, pas forcément pour ce qu'il nous donne, mais aussi pour qui il est, pas seulement pour les épreuves, mais surtout pour qui il est, son identité, le fait qu'il est le Dieu créateur, le Dieu amour, le Dieu juste, saint, souverain, et aussi le remercier de nous avoir sauvé la vie, de nous avoir donné cette vie éternelle, et ça, je pense qu'on peut toujours continuellement le chanter pour ça tous les jours, et le remercier pour ça, pardon. Et de plus, Colossiens 2, 10 nous dit que nous avons tout en Jésus-Christ, nous avons tout de manière spirituelle avec Christ, c'est Dieu qui nous le donne. Et troisième chose, la soumission mutuelle, le fait de soumettre l'un à l'autre, nous aide à être remplis de l'Esprit. Et je pense que dans la soumission, quand Paul a écrit ça, il y avait une idée de prévenir justement tout sentiment d'orgueil qu'il pourrait y avoir et de vraiment laisser place à l'humilité, à considérer l'autre comme étant supérieur à soi-même, on le voit dans Philippiens aussi, et finalement à chercher à servir les autres dans l'amour. Et quel meilleur modèle que Christ lui-même ? Christ s'est soumis à Dieu le Père, pour s'incarner et nous sauver. Il a servi ses disciples, rappelez-vous quand il a lavé les pieds, alors qu'il était plus grand qu'eux. Et je me rappelle de ce passage aussi où il reprend ses disciples qui voulaient siéger à sa droite et à sa gauche, et il voulait montrer par là qu'il n'était pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et quand on parle de soumission mutuelle, il s'agit de soumission mutuelle volontaire. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ce côté volontaire. On ne se soumet pas parce qu'on nous l'ordonne, mais on se soumet parce qu'on a à cœur de se soumettre l'un à l'autre. Et il y a des cas particuliers, par exemple, je peux me soumettre à mon frère parce que je sais que, ou à ma sœur, hein, parce que je sais que ce dimanche-là, il va mener la louange. Donc c'est lui le leader. Donc je me soumets à son autorité par rapport à la gestion de la louange aujourd'hui. Et c'est à moi de le suivre. Par contre, si je dirige par exemple le groupe de maison, c'est moi qui l'anime, ce sera plutôt lui qui va me laisser conduire l'étude biblique. Ou le groupe épique, par exemple, quand Eric conduit, je me soumets à son autorité parce que c'est lui qui est en train d'enseigner au groupe épique. Et par exemple, ça me touche plus particulièrement, je me soumets à ma femme dans le domaine de la cuisine parce que je sais qu'elle est meilleure que moi. C'est pas compliqué, mais voilà. Pourtant, c'est moi le chef de la famille bibliquement. Mais je me soumets à elle par rapport à tout ce qui est cuisine. Si elle me dit, oui, coupe les carottes, coupe les oignons, même si je pleure et tout, ok, c'est pas grave, je le fais parce que je me soumets à ma femme. Mais dans tout cela, dans toute cette soumission mutuelle, Paul rappelle que notre leitmotiv, notre source de motivation, ça doit être la crainte de Dieu. Et cette crainte, c'est un immense et profond respect envers Dieu, parce qu'il est tellement saint, parfait, pur. C'est avoir ce profond respect pour Dieu, cette crainte pour Dieu. Nous avons vu avec ces quatre conseils que c'est en étant connectés à la source de la lumière, c'est en étant en dépendant du Saint-Esprit que nous pouvons trouver la force et la motivation pour appliquer ces quatre conseils. Et ce n'est pas des conseils qui sont appliqués juste pour être respectés, mais c'est vraiment ils ont un objectif, c'est nous aider à racheter le temps. Parce qu'on sait que le temps sont mauvais, on a vu qu'il y a toujours des injustices, on voit que le monde est vraiment perdu, que les gens sont perdus, qu'ils n'ont pas Dieu. Et on est appelé justement à racheter le temps, à se saisir vraiment du temps qui nous est imparti pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et pour conclure, s'il te plaît, Denis. Aujourd'hui, nous avons vu dans un premier temps qu'on était des enfants de lumière. On a vu qu'on était tous nés dans les ténèbres, que nous avons été justifiés et sanctifiés, que nous ne devions pas nous faire influencer par les uns, par les autres, notamment les ténèbres. Nous avons rappelé que nous sommes passés de ténèbres à lumière et que nous sommes appelés à avoir une conduite d'enfants de lumière. Cette conduite, elle est développée ensuite dans le deuxième temps, qui est racheter le temps. Comment racheter le temps ? Et on est appelé à avoir une bonne conduite, à comprendre la volonté de Dieu, à ne pas perdre notre contrôle et à être continuellement rempli du Saint-Esprit à travers la louange, à travers la reconnaissance et à travers la soumission. Comme nous sommes des enfants de lumière, nous sommes appelés à rester connectés à la source de la lumière qui est Dieu lui-même, avec ce temps dont on parlait. Et nous sommes appelés à briller là où Dieu nous a placés. Je vous invite donc, chers frères et sœurs, à bien gérer notre temps, à prioriser vraiment ce qui est prioritaire, à racheter le temps, parce que le temps presse, les amis. Je vous invite à prier. C'est notre Dieu, nous rendons compte que le monde va mal. Peut-être que des fois on se met des œillères, peut-être qu'on ne se rend pas compte. Peut-être des fois qu'on se laisse même influencer par le monde. Mais Seigneur, je te prie pour qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous ouvres les yeux. Qu'aujourd'hui nous puissions voir avec tes yeux, Seigneur, comment le monde est. Que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions vraiment nous réveiller si jamais nous étions endormis. Ou vraiment nous réveiller si jamais on s'est déjà endormi et réveillé plusieurs fois, Seigneur. Seigneur, merci parce que ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de ce que le Saint-Esprit fait en nous. Et je te prie, Seigneur, que tu rendes nos cœurs disposés à faire cela, Seigneur, parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Et du coup, tout ça, c'est la gloire qui te revient à chaque fois que nous faisons des bonnes choses, Seigneur. Et nous te remercions encore parce que tu nous apportes ta parole et qui nous parle chaque jour, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, et je t'en supplie pour que je te supplie que nous puissions chérir ta parole, nous délecter de ta présence chaque jour, Seigneur. Pas seulement le dimanche, pas seulement au groupe de maison, mais vraiment tous les jours, dès le matin, dès l'aube, Seigneur, afin de commencer cette journée et terminer cette journée aussi avec toi, Seigneur. Vraiment, conduis chacun d'entre nous dans notre intimité avec toi et permets-nous de te mettre vraiment à la première place dans tous les domaines de notre vie. Je te prie en son nom de Jésus. Amen.